ensemble dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, deux versets, les versets 26 et 27. Ézéchiel, chapitre 36 et le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'est Dieu qui parle ici et fait une promesse d'une importance majeure. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et ça va être le thème de ce message ce matin. Il n'y a que Dieu pour cela. Il n'y a que le Seigneur qui a le pouvoir d'annoncer une telle promesse, de mettre en nous, en chaque être humain, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Quand Dieu parle d'un cœur nouveau, du cœur, en fait, il parle de la partie intérieure de chacun d'entre nous. Il y a l'extérieur, le visible, que nous essayons de soigner le mieux possible avec pas mal de cosmétiques, du lait de concombre, je sais pas, vous avez toutes, surtout toutes au féminin, vos recettes. Mais enfin, nous les hommes, on essaye aussi un peu de retarder les ravages du temps. Mais ça, c'est l'extérieur, c'est l'extérieur. Étrangement, Dieu qui s'engage à entretenir effectivement notre santé physique va mettre la priorité sur l'intérieur. Et ce matin, j'aimerais de tout mon cœur développer quelques conseils, quelques instructions bibliques qui touchent à ton être intérieur, l'homme intérieur. C'était le sujet d'intercession majeur de l'apôtre Paul. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent leur nom toutes les nations de la terre, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur. La mentalité amplement répandue dans le monde, c'est de soigner l'extérieur. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle catégorie d'individus qu'on appelle les influenceurs. Et eux, ils exploitent l'art, eh bien, d'émettre des capsules, ils appellent ça des capsules, n'est-ce pas, pour donner toutes sortes de conseils pour l'apparence, pour l'extérieur. Mais Dieu révèle un jour à un de ses prophètes, Samuel, quelque chose d'essentiel. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'attention du Seigneur sera prioritairement accaparée et attirée par notre état intérieur. Est-ce que j'oserais interroger chacun sur son état intérieur ce matin, sans que personne ne réponde comme ça, publiquement, mais dans quelle disposition se trouve ton cœur? Dans quelle disposition? Nous verrons tout à l'heure plus en détail que il se passe des choses là à l'intérieur. Il se passe des choses qui peuvent passer inaperçues pour même nos proches. Il peut y avoir ici des crises intérieures que l'on parvient à contrôler et à cacher par des apparences plutôt joviales, rassurantes. Mais il y a des drames quelquefois qui sont en train de se mettre en place, des douleurs inouïes que nous endurons et que nous essayons quand même de cacher. Or, si je peux cacher des choses intimes à mon entourage, je ne le pourrai jamais à mon Dieu. Parce que justement, son souci de compassion, c'est l'état de mon cœur, de ton cœur. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois en très bonne santé intérieure. Amen. Physique aussi. Mais l'intérieur est prioritaire. La volonté, le souci du Seigneur, c'est cela, c'est de donner à chacun, eh bien, une santé, une stabilité, un épanouissement, une harmonie, un bonheur, une abondante bénédiction à l'intérieur. Et c'est vrai que quand l'intérieur est béni, l'extérieur aussi. C'est pas vrai ? Par voie de conséquence, on est très différent avec nos contemporains. On est détendu, accessible, aimable. Et il y a des conséquences immédiates. Mais ça commence par le cœur, parce que c'est quand même dans le cœur que se trouvent toutes les sources de la vie. Or Dieu travaillera toujours à bénir la source, à traiter la source, à traiter la cause, l'origine, et les conséquences bénies s'en suivront immédiatement. Je me suis laissé raconter l'histoire de ce paysan, de cet éleveur qui constate depuis quelques jours que son troupeau est malade. Et ses vaches sont malades. Il fait venir le vétérinaire qui ausculte les bêtes et il essaye de trouver la cause, la source. Alors il interroge le paysan. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que mangent vos bêtes? Est-ce que vous les avez sorties par grand froid? Enfin, et plein de questions. Et puis une question lui vient. Quelle eau boivent vos vaches? Et le paysan dit, ils boivent l'eau du puits, là. C'est un puits ancestral qu'on a au bout du champ, là-bas. Et je puise l'eau de ce puits et je la sers à mes vaches, depuis longtemps. Alors, le praticien va dire, on va faire analyser l'eau du puits. Et on fait analyser l'eau du puits. On trouve que l'eau est empoisonnée. Alors on va sonder le puits. Et au fond du puits, on trouve une vieille marmite en cuivre qui était tombée accidentellement des années en arrière au fond du puits et qui s'était gentiment, lentement, silencieusement oxydée. Et l'oxydation, ça avait fini par empoisonner l'eau du puits. Et alors on a sorti cette marmite et immédiatement l'eau est devenue à nouveau potable. Il n'y a pas une vieille marmite qui s'oxyde là dans le fond de quelques puits là ce matin parmi nous? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton puits, au fond de ton cœur? C'est ce qui intéresse le Seigneur. C'est là que se portent ses regards en priorité. Jésus va dire à tous les hypocrites religieux de son temps, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, parce que, vous voyez, il y avait toutes sortes de règlements, etc., d'abstinence, moi je mange de ceci, je ne mange pas de cela. Alors moi je mange de tout, hein, je vous le dis d'avance, et même trop. Hein. Mais Jésus va dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche, ça vient de son cœur. Là où il y a des critiques, de l'amertume, de l'adultère, de la convoitise, de la tromperie, de la dissimulation, c'est dans le cœur impur que les paroles mauvaises trouvent leur inspiration, et ça, ça souille l'être humain. Ce n'est pas l'extérieur de l'assiette qu'il faut nettoyer, va encore enseigner Jésus, hein, mais parce qu'il y en a qui font une drôle de vaisselle. Et, vaisselle, la fast vaisselle, rapide. Hein, mais quand Dieu fait la vaisselle, quand Dieu nettoie, quand Dieu guérit, quand Dieu répare, quand Dieu restaure, quand Dieu assainit, il déploie son intervention au cœur de ce que nous sommes. Et c'est ainsi que peut-être ce matin, l'Esprit de Dieu va juger utile de me visiter pour enlever de mon cœur une vieille marmite qui s'oxyde. Un vieux souvenir amer qui produit de l'infection intérieure. Vous voyez ? Alors on trouve que le problème c'est chez les autres alors qu'il est dans mon puits. Alors laisse le Seigneur, c'est simple et c'est efficace, laisse-le prendre ta vieille marmite et la jeter, l'extraire de ton être intérieur, tu en seras le premier bénéficiaire et autour de toi, par vague, il y aura aussi de nombreux bénéficiaires. C'est là vraiment le défi que Dieu lance. Changer notre cœur. Personne ne peut le faire, si ce n'est lui. Personne ne peut le faire. Les différentes démarches que l'homme s'est données, tant dans le spirituel, le religieux, le philosophique, le psychologique ou autre encore, tout cela aboutit à une désillusion. Je ne peux pas changer mon cœur, mais gloire à Dieu, Dieu le peut. Et non seulement Dieu le peut, Dieu le propose et Dieu le promet. Je donnerai, eh bien, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Vous propose, frères et sœurs, de lire avec moi un récit bien connu dans l'évangile de Luc au chapitre 20 et le verset 26. C'est un événement qui s'est produit surprenant dans son aspect extérieur, mais rempli d'instructions. Luc chapitre 20 et le verset 20. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui firent cette question: « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, » répondirent-ils. Alors il leur dit: « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Amen. N'est-ce pas étonnant de voir Jésus que l'on interroge sur une question précise, faut-il payer l'impôt à César, de dire « Montrez-moi un denier, montrez-moi un denier. » Et j'imagine que un de ces juif a plongé sa main dans les plis de sa tunique, là où on mettait l'argent quand on sortait. Il n'y avait pas la carte bleue, hein, donc on partait avec un petit pécule dans les plis de la tunique, et il ressort sa main avec une pièce de monnaie, avec un denier. Et Jésus leur dit, ben, regardez ce denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Et là, penaud, accablé et honteux, ils sont obligés de reconnaître de César. De César. Vous savez que la monnaie a, depuis fort longtemps, servi de support pour véhiculer des messages de propagande. C'était un support. D'ailleurs, il y a souvent des symboles ou des inscriptions, des slogans sur des pièces ou des billets. In God we trust, ça c'est aux États-Unis, nous croyons en Dieu. Mais il y a d'autres cultures, d'autres philosophies, d'autres politiques très éloignées de la foi qui, elles aussi, sont véhiculées à travers la monnaie. Par exemple, puisqu'il est question de l'autorité, la domination romaine, au temps de l'empereur Vespasien, il y avait une pièce de monnaie en Israël où, sur le recto, il y avait l'effigie de Vespasien et sur l'envers de la médaille, on pouvait lire et voir un palmier courbé. Sous ce palmier, une jeune femme courbée et l'inscription « La Judée vaincue ». Et imaginez quel douloureux rappel, chaque fois que l'on sortait une pièce comme ça, elle nous rappelait l'état de domination sous laquelle l'on était, la Judée vaincue. Et voyez-vous, notre cœur, je me demande si on ne peut pas comparer notre cœur à cette pièce de monnaie, que par un impact violent, l'adversaire de nos âmes a gravé, a marqué profondément de son effigie, tu es ma propriété, et de ses slogans qui nous rabaissent, tu es pécheur, tu es lié, tu es esclave. Avec ce rappel, et notre conscience est régulièrement troublée par les réalités douloureuses qui sont là, cachées en nous à cause du péché. Et c'est ce que Jésus a voulu mettre en pleine lumière. Vous me posez des questions captieuses avec des intentions pleines de malice, mais moi j'aimerais que vous preniez conscience de votre état. Vous êtes dans un état de servitude et moi Jésus, Dieu m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Même si ton cœur porte encore les marques douloureuses d'un passé que tu n'aurais jamais voulu connaître, même si tu as des marques vivaces et douloureuses qui te handicapent encore aujourd'hui, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a le pouvoir de mettre en toi un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un chrétien, ce n'est pas un pécheur amélioré. Un chrétien, c'est un pécheur qui est mort et ressuscité en une création nouvelle. Dieu dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Oh, j'aimerais proclamer cette réalité glorieuse. Dieu seul a le pouvoir de faire toute chose nouvelle. Pas du vieux rafistolé, mais du neuf. Vous savez que le neuf, il a ses caractéristiques. Hein. Vous entrez dans une voiture neuve. Ça sent le neuf. Vous avez l'impression quand vous roulez sur la Canebière à Marseille, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. En fait, personne ne fait attention, mais vous avez l'impression que vous êtes brusquement de la lignée royale d'Angleterre. Le neuf, vous voyez. Pour la fête des pères, ça c'est une petite idée que je vous susurre, on vous offre un costume neuf. Mais vous avez l'impression que quand vous allez faire vos courses en poussant votre caddie, tout le monde vous regarde. En fait, non. Rassurez-vous, personne ne fait attention à vous. Mais vous, vous avez l'impression. Vous avez un vêtement tout neuf. Et le neuf a ses caractéristiques. L'éclat de ses couleurs. Son parfum. Voyez, sa qualité, la qualité du neuf. Eh bien, Dieu, en te regardant, ce matin, te dit, je fais dans ta vie toute chose nouvelle. J'ai le pouvoir de te donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Oui, parce que l'ancien, le prophète Jérémie nous en fait le diagnostic, il est méchant et il est tortueux. C'est pas vrai ? À cause du péché. Alors Dieu ne va pas s'employer à rafistoler, à raccommoder. Non, 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 le cœur ancien qui est définitivement déformé à cause du péché, il l'enlève, il le fait disparaître et il met à la place un cœur nouveau. Alléluia ! Un cœur nouveau, un cœur débarrassé, délivré de toutes les formes de handicap, parce que le cœur, notre cœur, peut passer par diverses phases handicapantes. Le roi David disait, j'ai le cœur agité. On peut avoir le cœur agité. On peut avoir le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un a-t-il un cœur atteint, brisé même ? Eh bien, il y a parmi nous celui qui a le pouvoir de guérir le cœur brisé. Amen. Notre cœur peut être chargé, accablé, culpabilisé, gangréné, rongé de remords. Notre cœur peut être aussi habité d'amertume. D'amertume. C'est parce que Achitophel n'a pas pardonné ce que David a fait à Uri et à Bathsheba, que de nombreuses années plus tard, son amertume était toujours dans son cœur et il a projeté la fin, l'extermination de David. L'amertume, c'est tenace. Ce n'est pas le temps qui règle l'amertume, mais c'est le miracle du Seigneur qui met un cœur nouveau. Amen. Un cœur libéré de cette tumeur de l'amertume. Un cœur en bonne santé, un cœur heureux, un cœur libre, un cœur stabilisé, rempli d'espérance, rempli de l'amour de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je mettrai un cœur nouveau et j'aimerais terminer avec cette seconde partie du message. Pourquoi faire ? Un cœur nouveau, pourquoi faire ? Pourquoi ? Je dirais, un, pour devenir un espace privilégié. Amen. On va y revenir. Deux, pour que ce cœur nouveau devienne comme le jardin du Seigneur. Et l'image est biblique. Trois, pour que ce cœur nouveau soit comme l'atelier du Seigneur. Où il a un travail à faire. Un cœur nouveau. Oh, quelle promesse, quel miracle, quel défi. On a un grand Dieu, alléluia. Il peut nous donner un cœur nouveau. Et maintenant que nous l'avons en nous, ce cœur nouveau devient un espace privilégié. Amen. Un espace privé. Propriété privée, ça lui appartient. Ton cœur doit être un espace inviolable. Ce n'est pas un accès facile que tu dois offrir à toute sollicitation. Il y a des pensées qui n'ont pas de place dans ton cœur. Parce que c'est le cœur nouveau. Il appartient au Seigneur. Amen. Un espace privilégié. Le Seigneur dira dans Jérémie 24 et le verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Alléluia! Quelle parole! Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Un espace privilégié. Dans cet espace d'un cœur nouveau, Dieu va se faire connaître. Et toi, tu vas le connaître. Et il va y avoir une intimité, une intimité. Alléluia, gloire à Dieu. Ton cœur est un espace où de glorieuses expériences peuvent se vivre. Amen. Ton cœur ne doit pas être le dépositoire de n'importe quoi. Non, c'est pas une déchetterie où on met tous les rebuts. Non, c'est l'espace du Seigneur. Et là, dans ton cœur nouveau, une promesse pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Amen. Qu'ils connaissent. Voyez, on connaît Dieu dans le cœur. Et pas forcément dans la tête. Parce que si nous étions en capacité, dans notre tête, d'enfermer Dieu, eh bien, soit nous ne serions pas des êtres finis, soit Dieu ne serait pas Dieu infini. C'est impossible que tu comprennes Dieu dans ta tête, mais tu peux le connaître dans ton cœur. Amen. Dans ton cœur, ce cœur nouveau. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a quelque chose d'intime qui va s'établir, parce que leur cœur aura été un cœur pur, purifié, bien sûr du péché, mais je dirais plus largement, débarrassé de tout ce qui est inutile et encombrant. Il y a certainement dans mon cœur et dans le tien des choses qui sont des encombrants. Il faut les enlever, hein? Parce qu'un encombrant, ça encombre. Ça occupe inutilement de l'espace. Il nous est arrivé avec mon épouse il y a quelques années en arrière parce qu'on devait libérer les combles. Alors, j'ai pris mon courage avec toutes les mains que j'avais, quoi. Hein, et je suis monté et j'ai relevé le défi de débarrasser les combles. Oh là là. Alors, j'avais posé sur la terrasse une palette et je mettais sur la palette, je crois qu'on a fait une ou deux palettes entières de choses dont on ne se servait plus du tout, mais ça peut toujours servir. Alors de déménagement en déménagement, ça nous suivait partout. Eh ben, ils ont arrêté de nous suivre parce qu'ils ont fini là où ils auraient dû finir plus tôt, à la déchetterie, n'est-ce pas? Il y a des encombrants, mais quel drame quand il y a des encombrants dans le cœur. Dans le cœur, non, heureux, les cœurs purs, nettoyés, débarrasser, laver. Alléluia! Parce que là maintenant, ces cœurs purifiés sont dans des bonnes dispositions pour voir le Seigneur, vivre une intimité avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit te visite ce matin et qu'il débarrasse ton cœur de tout ce qui gêne ta communion avec Dieu. Les vieux souvenirs revanchards, les épisodes difficiles que tu as traversés et qui ont laissé des cicatrices, des blessures, que toutes ces choses, par un miracle de Dieu, mais par ton acceptation aussi, disparaissent totalement. Que ton cœur soit pur. Faites-moi un gros amen. Que ton cœur soit pur, libre, débarrassé. Et là, tu vas voir Dieu pour qu'il connaisse que je suis l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Oh, que nous soyons comme cette maison dont a parlé le Seigneur. Je sanctifie cette maison. Cette maison, ça peut être toi, ça peut être moi, c'est nous. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et en te regardant d'une façon très personnelle, Dieu prononce cette vérité. Sa volonté, c'est que tu sois cette maison et que là, dans cette maison que tu es, il y ait à jamais son nom, ses yeux et son cœur. Un cœur nouveau pour être un espace privilégié où je vais vivre une merveilleuse histoire d'intimité, d'amour, de communion avec mon Père Céleste et avec mon Dieu Sauveur en la personne de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Un cœur nouveau, pour quoi faire ? Pour devenir le jardin du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 3, 9 dit « Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Nous étions avant comparables à un terrain vague, abandonné, qui ressemblait à rien, chaotique. Mais le Seigneur l'a visité, ce terrain. Il a relevé le défi de changer ce terrain vague, infesté de parasites, envahi de mauvaises herbes, de changer ce terrain en jardin productif d'excellence. Ton cœur nouveau est appelé à être le jardin du Seigneur. Amen. Et il est dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Donc l'image est vraiment biblique, hein. C'est comme ça que Jésus parle à son Église. Tu es un jardin fermé, clôturé, privé, hein. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe, l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Vous vous reconnaissez là ? Là, c'est vous, hein, c'est nous. C'est nous ensemble, ça. Hein. La description de l'Église, telle que Jésus la souhaite. Lève-toi, Aquilon, viens, autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Ah, que Dieu soit béni. Et voici le soupir de l'épouse qui répond à son époux. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Et le verset suivant, j'entre dans mon jardin. Ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Que le Seigneur soit béni. Tu es appelé à ressembler au jardin du Seigneur. Un merveilleux jardin. Moi, j'ai toujours été intéressé par le jardinage. Mais je ne suis pas content parce que je ne suis pas très fort. Et quand je veux demander des conseils, ils sont filous quelques-uns, quelquefois, quand je veux demander des conseils, je dis, mais comment vous faites pour avoir des oignons comme ça ? Vous ne savez pas ce qu'on me répond ? Il n'y a rien de plus simple. Mais il n'y a rien de plus simple. Moi, d'abord, ça m'apprend rien. Et puis, ça me nargue un peu quand même. Mais j'aime ça. Et nous avions un frère, alors lui, c'est vraiment le champion du jardinage. Quand j'allais visiter ce couple âgé, la première chose qui s'offrait à mes yeux, c'était le potager. Oh, extraordinaire. Mais des aubergines, mes amis. Des courgettes, des potirons, des tomates incroyables. Je me disais, mais comment il fait ? comment il fait, moi j'ai des punaises, j'ai des trucs, j'ai la maladie qui fait tomber les feuilles. C'était un plaisir de regarder son jardin, c'était un témoignage, on pourrait dire. L'Église doit être un témoignage. Amen. Au milieu de l'Église, lorsque des amis viennent, mais ils devraient s'émerveiller de voir les tomates et les poivrons, voyez, les grosses légumes, quoi, que des productions du jardin. Le jardin du Seigneur est appelé à produire des fruits d'une saveur qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. C'est le jardin du Seigneur. Alléluia. Quel miracle, quelle grâce, mon Dieu. Alors que ma vie passée était improductive, si ce n'est que de produire des ronces et des épines, tu l'as transformée. Et tu l'as transformée en un jardin, en ton jardin, avec des fontaines jaillissantes et toutes sortes de descriptifs. Et vous savez quoi? Ce qui m'émerveille encore plus, c'est que le Seigneur aime entrer dans son jardin. J'entre dans mon jardin et je cueille. Et je cueille. Et tu sais, quand tu ouvres la bouche et que tu lui apportes ton amour et ta reconnaissance, c'est un fruit que le Seigneur cueille pour son plaisir. Parce que les cultes ont pour objet principal de faire plaisir au Seigneur. Oui ou non? De réjouir le cœur de Dieu. Bien sûr que Dieu nous fait du bien aussi, hein, pendant les cultes. Mais ça, dans notre préoccupation, ça devrait passer au second plan. La première chose, je veux me souvenir de ceci, c'est que le Père demande des adorateurs, qu'il adore en esprit, en vérité. Et cette adoration, voyez-vous, eh bien, le Seigneur l'accueille pour son bonheur, pour son plaisir. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Un jardin à la gloire du Seigneur, et qu'il se plaira à visiter. Je prie pour que à chaque réunion de l'Église, Jésus nous visite. Et quelqu'un me dira d'une manière un petit peu banale, oui, mais c'est écrit là où deux ou trois, on connaît ces versets. Mais les connaître comme un savoir culturel et les vivre vraiment, c'est autre chose. Seigneur, visite-nous. Amen. Que chaque culte ait une saveur spéciale. Amen. Que personne ne reparte d'un culte déçu, mais au contraire comblé et émerveillé, parce que tu auras visité ton jardin, Seigneur. Et je termine ce message avec le troisième objet. Un cœur nouveau, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour être l'atelier du Seigneur, l'atelier du Seigneur. Hébreux, chapitre 8, on va lire ensemble un simple verset. Hébreux, chapitre 8, et le verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. » Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis pour terminer, Philippiens chapitre 2 et le verset 13. C'est un verset que l'on connaît très bien, mais c'est bien de le relire. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Dans ce cœur nouveau que Dieu a mis en toi, et si ce n'est pas fait encore, qu'il souhaite mettre en toi, il y a donc comme un atelier où le Seigneur va travailler. Question, est-ce que l'on permet à Dieu de travailler? Est-ce qu'il a le droit? Amen. Est-ce qu'on est prédisposé? Seigneur, me voici. Mon cœur est complètement disponible, ouvert. Je ne veux avoir aucune récalcitrance. je veux te laisser faire dans mon cœur. Amen. Pour qu'il y travaille. Dieu veut travailler dans le cœur. Vous savez, le chrétien ne mûrira vraiment que lorsque, entre Dieu et lui, se sera fait ce travail. Parce que un chrétien qui obéit comme ça, comme un automate, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on obéit sans rien comprendre, mais il va rester toujours enfant. Mais quand dans son cœur, il a permis à Dieu de l'éclairer, de le convaincre et de faire un travail qui va faire fléchir la volonté humaine devant la volonté divine, lorsque dans ton cœur, tu vas dire à ton Père céleste, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors que ce que tu veux vienne s'imprimer en moi. Je suis pleinement disposé à faire ce que tu veux. C'est là que tu grandis. Et que tu te mets dans les bonnes dispositions pour vivre la vie bénie et victorieuse que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants. Je me demande s'il n'y a pas parmi nous une ou quelques personnes qui seraient en train de faire un bras de fer avec le Seigneur. Dieu veut te convaincre, mais toi, tu as du mal à te laisser convaincre. Tu auras toujours tout à gagner à te laisser convaincre par le Seigneur. Amen. On est gagnant quand on cesse de résister et quand on dit « Seigneur, c'est toi qui as raison. » Et avec amour et avec bonheur, je veux faire ta volonté. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et que dans mon cœur comme dans le tien, dans cet atelier personnel, nous lui permettions de travailler, de travailler. Alors dans ce travail, il peut y avoir besoin de réparer, il peut y avoir besoin d'éclairer, de déposer un trait de sagesse, une inspiration pour orienter ma vie dans les choix qui se présentent devant mes pas. Il y a mille raisons qui font que le travail de Dieu en nous est essentiel. Laisse le Seigneur te bénir ce matin. Amen. Alléluia. Et ne repars pas de ce lieu avec les mêmes fragilités, les fêlures, les souffrances. Non, mais laisse le Seigneur te bénir dans cet espace privilégié de ton cœur. Alléluia. Et que ton cœur soit fortifié, raffermi, enrichi. Enrichi parce que Dieu, ce matin, y aura déposé quelques trésors supplémentaires. Alléluia.